marque-page.
Pour ça, on retrouve Elsa.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau marque-page. Depuis le début de l'année, je n'ai pas encore évoqué l'un des principaux genres littéraires, à savoir le théâtre. À 2 mois de la pause estivale, il était temps que je le fasse. Quitte à s'intéresser à un genre littéraire nouveau pour le marque-page, autant choisir une œuvre d'un pays dont je n'ai pas encore exploré la littérature. Comme il fait plutôt chaud dans le studio cet après-midi, je vous propose de partir pour la Norvège. La pièce de théâtre que j'ai sélectionnée a été jouée pour la première fois en 1891. Elle a été écrite par Henrik Ibsen. Pour les auditeurs qui ne le connaîtraient pas, Henrik Ibsen est né en 1828. Son enfance fut difficile en raison de l'alcoolisme de son père et de la pauvreté de sa famille. Devenu jeune adulte, Henrik Ibsen s'engagea dans des études de médecine. En parallèle, il commence à écrire ses premières pièces de théâtre. Ses études ne lui plurent absolument pas. En outre, les quelques pièces de théâtre qu'il parvint à faire jouer rencontrèrent un succès plus que mitigé auprès du public. Il finit par abandonner ses études. Il prit alors successivement la direction artistique du théâtre de Bergen, puis du théâtre national de Christiania, l'actuel Oslo. Sa gestion de ces deux établissements fut pour le moins catastrophique. La preuve, le théâtre national de Christiania fermera ses portes quelques années après l'arrivée d'Ibsen. Côté production théâtrale, pour tenter de plaire aux spectateurs, Ibsen emprunta au folklore norvégien des légendes populaires. Malheureusement pour lui, le succès ne fut toujours pas au rendez-vous. Une question se pose alors. Que faites-vous quand tout va mal dans votre vie ? Ibsen fait partie de ces personnes pour qui la solution se trouve dans les voyages. À cet égard, ses échecs à répétition encouragèrent Ibsen à quitter la Norvège pour l'Italie puis pour l'Allemagne. Ce changement fut décisif dans sa production théâtrale. Il délaissa le folklore norvégien pour s'orienter vers des drames teintés de réalisme et de satire sociale, en particulier envers la classe bourgeoise. Plusieurs de ses pièces écrites au cours de cette période rencontrèrent un vif succès, mais firent scandale lors de leur première représentation. Parmi ces pièces se distingue Edda Gabler. L'intrigue d'Edda Gabler se déroule en 4 actes. Elle a pour unique décor un grand et beau salon de réception. Ce salon de réception est celui d'une riche maison de ville. Elle vient d'être acquise par un couple de jeunes mariés. La veille, le couple en question est rentré de son voyage de noces en Europe. Le jeune marié se nomme Jörgen Tessman. Il est docteur, non pas en médecine, mais en histoire. Ses travaux de recherche portent sur l'industrie domestique dans le Brabant du Haut Moyen-Âge. Il a profité de son voyage de noces pour visiter plusieurs bibliothèques, explorer leurs archives et acquérir une grande quantité de documents relatifs à son sujet d'étude. Son retour en Norvège le rend très enthousiaste, puisqu'il pourra enfin examiner plus précisément ces derniers. La jeune mariée ne partage pas vraiment la passion de son mari pour son sujet d'étude, et je pense que plusieurs d'entre vous sont dans le même cas. Elle se nomme Edda. Henrik Ibsen a donné son nom de jeune fille à la pièce, Edda Gabler. Dès le début de l'intrigue, le spectateur comprend qu'Edda n'appartient pas au même milieu social que son mari. En effet, le père d'Edda était un riche général d'armée issu de l'aristocratie. En outre, contrairement à son mari, que les didascalies décrivent comme un homme d'allure assez jeune, de taille moyenne, âgé de 33 ans, avec un léger embonpoint, le visage rond et souriant, une barbe et des cheveux blonds, portant des lunettes et négligemment vêtue, Edda Gabler est une jeune femme de 29 ans, d'allure et de visage aristocratique, et au teint d'une pâleur mate. Ses yeux sont d'un gris acier clair et ses cheveux ont une belle couleur châtain. Bref, le couple n'est pas du tout assorti. Les visites aux jeunes mariés commencent dès la levée du rideau. Après l'attente de Tessman, de Thea Elsted, qui est la jeune épouse du préfet, le juge Braque apparaît dans le salon. Le motif de la visite du juge Braque rappelle à Tessman la réalité de sa situation financière. En effet, le juge Braque a été chargé par Tessman d'acheter la maison pendant le voyage de noces. Or, son prix d'acquisition dépassait largement les moyens du jeune couple. Tessman lui justifie alors son choix. D'une part, il souhaitait acquérir une maison digne du rang d'Edda, et qui plus est, une maison qu'Eda avait déclaré vouloir habiter. D'autre part, Tessman est en attente de sa nomination imminente à un poste de professeur. Ce poste lui garantira des revenus suffisants pour couvrir les frais d'achat de la maison. Sur ce dernier point, Tessman déchante rapidement. À cet égard, le juge Brack lui apprend que le poste qu'il convoite fera finalement l'objet d'un concours. Certes, la candidature de Tessman est très solide. Or, un adversaire de taille convoiterait également cette place. Il s'agit d'Elsberg Lofborg. Lofborg est un brillant chercheur dont les travaux ont pour objet les civilisations. Le livre qu'il vient de publier sur le sujet est d'ailleurs un succès critique et commercial. Néanmoins, Tessman souligne un point qui pourrait porter préjudice à la candidature de son rival. Ses frasques de jeunesse, marquées par l'alcool et les excès en tout genre. Si Lofborg est le concurrent direct de Tessman pour ce poste de professeur, il se trouve qu'ils sont aussi concurrents sur un autre domaine, ce que Tessman ignore. En effet, Lofborg et Eda ne sont pas inconnus l'un pour l'autre. Ils se connaissaient très bien avant le mariage d'Eda et de Tessman. De son côté, Eda en a également appris un peu plus sur ce que Lofborg en était devenu, en conversant avec Thea Elsted, la jeune épouse du préfet. De plus, Thea a aussi avoué à Eda qu'elle était très éprise de Lofborg, et que cette affinité avait joué un rôle dans la rédaction du livre à succès de Lofborg. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur la relation entre Eda et Lofborg, mais aussi sur Thea, je vous donne rendez-vous à la BU de Bordeaux où cette pièce de théâtre peut être empruntée. Elle est disponible à la Bibliothèque de Lettres et Sciences Humaines de Pessac. En attendant de vous la procurer, pourquoi je vous en conseille la lecture? Comme je vous le disais en introduction, cette pièce a fait scandale dès sa première représentation. À mon sens, les œuvres jugées scandaleuses par leurs contemporains sont des lectures très intéressantes qui permettent d'appréhender les mentalités d'une époque et d'un pays. Eda Gabler est le personnage qui a suscité les réactions hostiles les plus violentes. En effet, Eda est une femme non conventionnelle pour le XIXe siècle. Elle prend ses distances par rapport à tout ce qui représente la féminité traditionnelle. Déjà, Eda ne s'identifie pas en tant qu'épouse, mais en tant que fille du général Gabler. Dans la maison où elle vient d'aménager, elle a pris tout d'abord soin d'installer dans le salon le portrait, le piano et les pistolets de son père. Par ailleurs, lorsque la tante de Tessman remarque qu'Eda a pris de l'embonpoint depuis son départ en voyage de noces, ce qui suggérait qu'elle soit enceinte, Eda rejette violemment cette hypothèse. Tout au long de la pièce, elle manifestera son désir de ne pas devenir mère. Son rejet de la maternité est incompréhensible pour le public de l'époque. Sa forte identification à son père et son attachement à son ascendance aristocratique lui a donné la réputation d'être une femme hautaine et plutôt masculine. Ensuite, malgré son profond désintérêt pour les travaux de recherche de son mari, Eda apprécie la philosophie, à laquelle elle consacrait de longues conversations avec Lofborg lorsqu'ils étaient plus jeunes. Cet attrait la distingue de tous les autres personnages féminins. Néanmoins, leur goût commun pour les études intellectuelles n'a pas encouragé Eda à épouser Lofborg, et cette énigme a perturbé plus d'un spectateur. Certains commentateurs ont suggéré qu'Eda serait un personnage homosexuel, et que sa relation avec Thea en témoignerait. À ce propos, il est vrai qu'Eda ne cesse de jouer ou de commenter les cheveux de Thea. Dans la littérature et plus largement dans les représentations symboliques, les cheveux ont une forte connotation sexuelle. À titre d'exemple, une femme convenable au XIXe siècle devait s'attacher et se couvrir les cheveux à l'extérieur, pour se distinguer des femmes de mauvaise vie, comme les prostituées qui ne le faisaient pas. Là-dessus, je vous laisse vous faire votre propre opinion sur la question. Pour finir, la fin malheureuse d'Eda peut être considérée comme un mouvement de révolte contre sa condition. Eda est une femme forte et talentueuse, mais se voit confinée dans une maison et un rôle qui ne sont pas à sa mesure. Eda se sent désœuvrée et inutile, sans aucune perspective d'avenir. Ses valeurs, largement empruntées au monde aristocratique, sont insuffisantes à donner un sens à son existence, car aucun des personnages qui l'entourent ne parvient à les incarner. Eda Gabler souhaite accéder à une certaine forme de grandeur et dépasser son existence triviale et banale. En cela, elle est une héroïne tragique à part entière. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau marque-page.